Qu'est-ce que la communication subliminale? On l'appelle également aujourd'hui communication infraliminaire.
Il est possible que l'homme disparaisse et continue à faire des sottises, mais il faut déjà dès maintenant se préoccuper d'un relais possible.
Bonjour et bienvenue. Les savants de Marseille vous proposent aujourd'hui leur dernier rendez-vous avant les vacances. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'un sujet particulièrement approprié pour la saison, puisqu'il s'agit des feux de forêt. Cause des feux de forêt, lutte contre les feux, quels sont les moyens mis en œuvre? Nous tâcherons de vous éclairer tout ça le plus simplement possible. Pour cela, nous donnerons la parole à Monsieur Adrien Mangiavillano, qui est doctorant en géographie à l'Université d'Avignon et également sapeur-pompier volontaire depuis une dizaine d'années. Cette discussion sera animée par M. Nicolas Favry, doctorant en mécanique des fluides sur Marseille, et moi-même, M. Philippe Mouron, doctorant en droit à la faculté de droit d'Aix-Marseille. Commençons par faire un petit rappel sur les chiffres liés aux feux de forêt.
Avec 15 millions d'hectares de forêt, soit un peu plus du quart du territoire national, la France se place au troisième rang des pays les plus boisés de l'Union européenne. Avec cette richesse naturelle, à laquelle vient s'ajouter l'importante diversité des zones forestières françaises, constituée de 136 essences d'arbres différentes, rend le territoire plus vulnérable aux incendies. Chaque année, des milliers d'hectares sont dévastés par les flammes. En dépit d'une stabilisation encourageante du nombre annuel de départs des feux, comme par exemple l'incendie de juillet 1997 à Marseille qui a brûlé environ 8000 hectares entre les massifs de l'Étoile et le Garlaban. Cette vulnérabilité n'est cependant pas identique pour toutes les zones forestières et subforestières du territoire. Seule la moitié des surfaces boisées est particulièrement vulnérable aux incendies, soit environ 7 millions d'hectares de forêt, sauf année exceptionnelle comme en 1976. Les 4 millions d'hectares de maquis et de garrigues de la région méditerranéenne et de la Corse, ainsi que le million d'hectares de forêts de pins dans les Landes, sont tout particulièrement concernés. Les incendies de forêt sont beaucoup moins meurtriers que la plupart des catastrophes naturelles. Ils n'en restent pas moins très coûteux, tant au niveau des moyens matériels et humains mis en œuvre, que des conséquences environnementales et économiques qui en découlent. Ainsi, en 2002, plus de 125 millions d'euros ont été consacrés à la prévention et à la lutte contre les feux en France.
Merci Nicolas pour ce petit rappel et ces bien tristes souvenirs qui nous rappellent aussi la canicule de 2003 qui elle aussi avait eu tout son lot d'incendies de forêt hein, qui avait bien ravagé la région. Avant de donner la parole à notre invité, je pense qu'il peut être bon d'écouter quelques réactions du public.
À votre avis, quels sont les facteurs qui favorisent les départs d'incendie?
La négligence des gens, enfin, les cigarettes, mal éteintes, surtout ça, je pense. Avec la chaleur, tout ça. Voilà.
La sécheresse, l'absence de pluie, et puis après l'activité humaine, barbecue, cigarettes, débroussaillage, et l'urbanisation, certainement aussi. L'abandon d'un certain nombre de cultures traditionnelles. Donc là, comme ça, c'est à peu près tout ce que je vois.
Bah, c'est... Comment je vais vous dire ça? Les gens qui sont... En principe, ils sont négligents. Voilà, comme beaucoup de choses.
La chaleur, les cigarettes mal éteintes.
Vous avez une idée?
Peut-être les bris de verre ou des choses comme ça qui traîneraient dans la nature, des canettes avec le soleil, ça brille et puis ça met le feu.
Alors la négligence semble justement être la cause à laquelle on pense le plus facilement. Pourtant on peut se demander s'il ne pourrait pas y avoir d'autres causes. Ou en tout cas, si négligence il y a, il ne faudrait pas responsabiliser un peu plus les personnes. Monsieur Mangiavillano, quel est votre avis justement sur cette négligence et ses moyens de prévention? Quels pourraient être les moyens de prévention pour lutter contre un incendie, selon vous ?
Bon, d'abord, avant de répondre tout à fait à la question, il semble bon de s'attarder juste quelques instants sur les causes en fait, de feux qui sont connues. Depuis à peu près 30 ans dans le sud-est de la France, il y a des travaux de recensement statistique qui sont faits pour essayer de voir exactement comment partent les incendies dans les régions et est-ce que, selon les départements, les causes de feux sont les mêmes. Il y a un premier chiffre qui sort de tout ça, c'est qu'on sait à peu près que 90% des feux sont liés à l'homme en général, avec un grand H. Hein. Mais derrière ce chiffre très, très, très important, en fait, il y a des réalités très différentes. Hein. Par exemple, si on est à peu près sûr que les feux ont démarré à 90% avec une causalité humaine, en fait, au mieux, on connaît la cause exactement, on est sûr de la cause de feu entre 30 et 50%. Entre 30 et 50% des cas seulement. Donc tout le reste, hein, ce sont des feux dont on ignore, on suppose la cause, mais en fait on en ignore réellement la source, l'origine. Voilà, donc c'est, on a souvent en tête la négligence ou l'activité incendiaire, mais globalement on est souvent ignorant face à tout ça.
Donc il y a énormément d'incertitudes.
C'est énormément d'incertitudes, oui. Et le principe de l'incertitude est une notion qui domine énormément dans la thématique d'incendie.
Bon, mais alors, est-ce que justement on peut pas lutter malgré tout sur la marge de certitude qu'on a
Voilà, donc sur ces principes-là, il y a des mesures qui ont été mises en œuvre depuis une vingtaine d'années maintenant, donc qui se mettent en œuvre à différents niveaux, au niveau des préfectures, au niveau local, au niveau des massifs forestiers, donc qui sont plutôt axés sur les types d'activités qu'on va essayer de placer aux abords des forêts, sur les réglementations d'accès aux massifs forestiers en plein été, sur les réglementations dans les plans locaux d'urbanisme en fait, qui empêchent ou limitent l'extension urbaine en plein cœur des massifs. C'est ce qu'on appelle le mitage urbain. Voilà, pour essayer de ne plus avoir de maisons isolées au cœur des massifs forestiers. Ce sont des situations très très difficiles à gérer. Donc il y a toute une batterie de règlements administratifs et juridiques pour tenter de contenir la mise à feu dans les espaces méditerranéens.
Est-ce qu'on tente vraiment de responsabiliser les personnes aussi ?
Alors chaque année, je pense que dans les jours ou les semaines qui vont arriver, on va entendre sur les radios, sur les ondes, toute une série de spots publicitaires appelant à la prudence, appelant à la prise de conscience pour les populations du risque incendie.
Bien, voilà. Alors, puisqu'on parle justement de prévention, bon, il faudrait aussi savoir prévention contre quoi. Parce que maintenant, concrètement, comment peut démarrer un incendie ? On en a un peu parlé au début, mais revenons-y un petit peu. Qu'est-ce que, selon vous, quelles sont les principales causes de démarrage d'un incendie, toujours dans la marge de certitude qu'on puisse avoir ?
Donc, les principales causes essentielles qui ressortent en fait des séries statistiques, c'est des causes accidentelles, donc qui dominent largement. Donc, ces causes accidentelles, ça relève de l'activité industrielle, par exemple une décharge en périphérie urbaine. Voilà, ça peut être une activité de débroussaillage ou d'élagage de bois à proximité, là également des massifs forestiers. Ça peut être simplement un écobuage d'un particulier qui ne maîtrise pas du tout ou qui utilise le feu dans des conditions météorologiques peu propices, enfin plutôt propices aux incendies, mais peu propices au brûlage. Globalement, c'est essentiellement lié à des accidents domestiques, disons. Mmh. C'est vraiment le comportement local d'individus.
Il peut y avoir des causes purement naturelles, indépendantes de l'homme.
Voilà, donc c'est tout à l'heure je vous ai parlé du chiffre de 90% de causes humaines, les 10% restantes étant liées à l'activité de foudre. En Méditerranée, en tout cas en France, hein, c'est la cause naturelle, vraiment naturelle, est très 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 rare. On la retrouve beaucoup dans les Hautes-Alpes ou les Alpes-Maritimes, dans des milieux montagnards. Voilà. Par exemple, aux États-Unis, c'est tout à fait différent. C'est entre 50 et 75% des feux qui sont liés à la foudre, par exemple. Donc, d'accord. Nous, chez nous, en France, on ne connaît pas du tout ces cas-là de mise à feu naturelle. Mais c'est également le cas, par exemple, pour l'Italie ou l'Espagne, où la mise à feu est essentiellement humaine.
D'accord. Et qu'en est-il des cas de canicule? Parce qu'on évoquait tout à l'heure celle de 2003 qui avait provoqué des incendies. Alors, il y en a beaucoup qui étaient de cause humaine. Est-ce que la chaleur, une chaleur importante, peut aussi être un facteur de départ de feu?
Oui, en fait, les conditions météorologiques sévères font que la végétation est à même de brûler plus facilement. Maintenant, il faut bien dissocier l'acte mécanique de l'étincelle, si vous voulez, et les conditions de sa propagation dont on parlera plus tard. En réalité, par exemple, la canicule de 2003, qui a été très très sévère pour l'ensemble du pays et pour l'ensemble du bassin méditerranéen, n'a induit de très très gros feux que pour le Var. Mais les forêts des Bouches-du-Rhône, de Corse, des Alpes-Maritimes, par exemple, ont été très peu concernées par les feux en 2003, et pourtant, les conditions météorologiques étaient dramatiques. Donc la relation chaleur, on va dire, et nombre de feux n'est pas aussi facile, n'est pas aussi simple qu'on le penserait. Merde.
D'accord. Donc maintenant qu'on a vu le mode de démarrage des incendies, quels sont les modes de propagation d'un incendie et qu'est-ce qui va faire que cet incendie va prendre des proportions phénoménales ou être résorbé très rapidement par les pompiers? Quels sont les facteurs qui vont amplifier ça?
Alors, pour la propagation pure, on peut aborder le problème sous deux aspects. Le premier aspect est une approche physique, on va dire plutôt mécanique, très simple. On considère en fait que la quantité de combustible qui est disponible dans un endroit donné va impliquer une plus grande importance du sinistre. C'est comme si on mettait plus de bois dans la cheminée, et bien la chaleur dégagée par la cheminée sera plus importante. Sur ce principe-là, le phénomène feu fonctionne pareil. Le relief induit beaucoup dans la vélocité du feu, puisque lorsque les pentes sont raides, le feu va beaucoup plus vite. Et globalement, il y a toute une série de paramètres avec la température qui favorise ou contraint la propagation du feu. La deuxième approche que l'on peut aborder est cette fois un peu plus délicate, mais enfin, il est bon d'en dire deux mots. C'est plus trop mécanique, mais c'est lié à ce qu'on appelle l'agencement de la végétation. C'est-à-dire, est-ce que les amas de végétation, les forêts, les bosquets, disons, sont en contact les uns avec les autres? Voilà, on appelle ça, par exemple, typiquement, c'est du principe de la percolation, mais c'est tout simplement la facilité avec laquelle le feu va pouvoir sauter d'un amas de végétation à un autre, et plus la végétation est compacte et liée, plus facilement le feu va se propager, tout simplement. Donc c'est sur ce principe-là que les actions de prévention proposent de mettre des coupures de combustible pour essayer de mettre des contraintes, des barrières, on pourrait dire des barrières naturelles, pour empêcher la propagation du feu.
Quelque part, ça peut contraindre la nature elle-même. S'il s'agit d'une végétation naturelle à un endroit donné, est-ce que ce ne serait pas plutôt contraindre la nature quelque part?
Ce sont des actions qui visent à tenter de la contraindre. Mais souvent, lorsque le feu a vraiment pris de l'ampleur, on parle par exemple d'un chiffre qui est assez frappant, et celui de la puissance d'un feu lorsque le feu s'est étalé sur 100 mètres de front de feu, c'est-à-dire la tête, ce qu'on appelle grossièrement la tête du feu, on parle d'à peu près de la puissance d'une centrale nucléaire. Donc on comprend bien que passer ces dimensions de puissance, les nuances locales de nature de végétation ou de débroussaillage sont difficiles. En tout cas, l'efficacité est quelquefois discutable. Mais quelque part, ces actions ont beaucoup d'effet sur des feux naissants. Voilà. C'est-à-dire qu'on enlève de la matière à brûler et de cette façon, on a plus les moyens d'agir directement en luttant sur le phénomène.
Dans notre région, quel est le niveau de prévention à ce niveau?
Alors, pour le débroussaillement ?
Oui.
Oui, alors, il est assez élevé. Ça s'est mis progressivement en place depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, disons, principalement sur les bords de route, le long autour des habitations. Les réglementations qui obligent les propriétaires, par exemple, à débroussailler 50 mètres autour de leur maison, ces réglementations sont de plus en plus contraignantes. Et donc ça, c'est vraiment de la responsabilité de chacun d'appliquer ce genre de loi, puisque ce sont des lois. Hein. On voit bien le résultat sur une maison qui n'avait pas été protégée par un débroussaillement suffisant. Quelquefois, on a eu malheureusement de nombreux cas, les maisons brûlent par négligence, par manque de prise de conscience du besoin de débroussailler. Voilà. Et le débroussaillement se fait également sous les axes, les lignes électriques... Mais globalement, c'est très efficace, mais ça coûte très, très, très cher, puisqu'on doit entretenir, et ça fait partie des budgets de prévention qui sont les plus importants.
Pour tout ce qui concerne les voies publiques,
exactement.
Par exemple.
L'entretien, oui. Vraiment l'entretien des bordures, en fait, des axes routiers ou des habitations, puisque c'est bien de là que les feux vont partir. Souvent, on estime que c'est dans une fourchette de 20 mètres autour des axes de routiers que les feux démarrent. Donc c'est vraiment, cet espace-là est capital à gérer. Il y avait eu des projets, il y a quelques années, de mettre du produit dont l'action serait à empêcher que le feu démarre. Voilà. Mais ce genre de projet existe encore, c'est coûte encore plus cher à mettre en place, donc c'est difficile.
C'est toujours à l'ordre du jour.
C'est toujours à l'ordre du jour. Il y a des tentatives qui sont faites selon les produits pour essayer de minimiser les coûts tout en gardant une efficacité maximale. Donc il y a ce rapport coût-bénéfice qui est encore à l'étude en ce moment.
D'accord. Je vous propose de faire une pause en écoutant à nouveau quelques réactions du public. Et nous reprendrons ensuite sur les moyens de lutte contre l'incendie. En étudiant au passage l'histoire des marins-pompiers de Marseille, bien célèbres, qui eux aussi prennent une part importante dans la lutte contre les incendies locaux.
Bonjour. Les incendies, à votre avis, est-ce qu'ils peuvent être utiles à la forêt et à la diversité naturelle ?
Oui, je pense que oui, puisque c'est naturel. Les incendies, des fois, sont, comment dire, créés naturellement, quoi.
Non. Bien sûr que non.
Non,
non.
Pour toi, c'est catégorique.
Ah oui, c'est pas utile, oui.
Et toi, tu trouves ça utile ?
Non, du tout.
Du tout ?
Non.
Est-ce que vous voyez une utilité à ce qu'il y ait un incendie en forêt ?
Dans le coin, ici, je pense pas, non. Après, il y a des régions où, avec l'éco-buage et tout ça, bon, ça peut être utile, mais... ici, je pense pas. La végétation est tellement fragile que si elle est détruite, elle est détruite, quoi.
Vous avez une idée ?
Moi, je pense que c'est pas utile. Des incendies, non. Ça détruit la nature, c'est pas bon. J'y entends rien.
J'ai quelques petits doutes, quand même.
Vous pensez qu'il n'y a que du négatif dans les incendies ?
En grande partie, je pense que oui.
Donc, quelle est, selon vous, l'utilité de la forêt ?
Permettre de se détendre, en toute simplicité, avec la nature. Une très belle œuvre qui est pour tous les goûts.
Au niveau écologique, est-ce que tu vois une utilité ?
Les plantes rejettent du CO2, du coup ça nous permet de vivre. Donc c'est pas mal au niveau écologique. Apporter de l'oxygène.
Je sais pas. C'est le côté naturel, c'est joli, ça fait pur, c'est bien.
L'utilité de la forêt, je pense que ça sert à la vie surtout, une fois. À avoir des espèces différentes sur Terre, notamment.
Merci.
Oui.
Une idée ?
La vie, l'oxygénation, le plaisir en même temps de la nature, tu vois.
Avoir un environnement agréable.
Vous avez une idée ?
L'utilité, c'est déjà d'avoir un air qui est quand même, je dirais, filtré par cette forêt et qui nous apporte un oxygène agréable à respirer, de bonnes odeurs, de la détente pour s'y promener. Et puis, ça fait vivre toute une faune dont on a besoin pour notre équilibre également.
surtout faire en sorte qu'on puisse vivre par rapport à, à l'air qui est recyclé par les arbres et tout. Indispensable à la vie.
Alors, puisque le thème qui nous intéresse aujourd'hui porte sur les incendies et les feux de forêt, il peut être intéressant de se pencher quelques instants sur les principaux protagonistes de la lutte contre ces fléaux, et spécialement à Marseille. Donc nous savons que la ville de Marseille est dotée d'un corps particulier de pompiers qu'on appelle les marins-pompiers de Marseille. Alors pourquoi marins-pompiers ? Pourquoi ce corps particulier ? Les raisons sont historiques, hein, et tiennent même à l'histoire de Marseille. En fait, il s'agit de pompiers qui sont militaires et qui dépendent de la marine nationale. Ce n'est pas le cas dans les autres communes de France où les pompiers sont des fonctionnaires dépendant directement des collectivités locales. Hein, il n'y a que Marseille et Paris qui disposent d'un corps de pompiers militaires. Alors pourquoi ces marins-pompiers agissent à Marseille ? Depuis combien de temps ? En fait, le corps existe depuis 1938, car cette année-là, un événement dramatique a marqué Marseille. Il s'agit de l'incendie du magasin des Nouvelles Galeries qui se situe sur la Canebière. C'est un gigantesque incendie qui avait dévasté le magasin précisément le 28 octobre 1938 et la gestion du sinistre a été catastrophique. Les sapeurs-pompiers étaient extrêmement mal organisés. Bon, à l'époque, il s'agissait des sapeurs-pompiers de la ville. Ils étaient très mal organisés, sous-équipés, trop peu nombreux. Résultat, ils n'ont pas su gérer ce sinistre. Déjà, tout simplement, on se souviendra qu'ils n'ont pas pu arriver à temps sur les lieux du désastre parce qu'une foule de curieux gênait leur passage. Une foule de curieux qui regardait l'incendie sans réagir. Donc, de fait, ils n'ont pas pu dégager le passage pour arriver jusqu'aux Nouvelles Galeries. Donc, bon, c'est un certain manque de compétences notoire là qui est assez éclatant. Bon, et au final, l'incendie a quand même coûté la vie à près de 75 personnes. Alors, cet événement a déjà été dramatique en soi, bon, pour le bilan humain. Et il a été aussi dramatique pour la ville de Marseille parce que le même jour, le 28 octobre 1938, il se tenait à Marseille un congrès qui réunissait plusieurs membres du gouvernement, hein, du gouvernement de l'époque, donc par exemple Édouard Daladier, qui était président du conseil, et qui ont assisté de leurs propres yeux au désastre. Et face à la mauvaise gestion de ce sinistre par les services de secours, ils ont purement et simplement décidé de mettre la ville sous tutelle. Donc Marseille a été mise sous tutelle de l'État. Le maire en exercice a été déchu de ses fonctions. Hein, donc Marseille n'a plus de maire officiel jusqu'à la libération. Hein, le suivant a été Gaston Defer. Et surtout, au passage, le corps des sapeurs-pompiers de la ville a été supprimé et remplacé par un bataillon de marins-pompiers de la Marine nationale, qui eux aussi dépendaient de l'État. Alors le retour à la normale après la guerre a quand même laissé en place les marins-pompiers qui continuent d'exercer justement leur fonction sur tout le territoire de Marseille et aussi sur quelques communes limitrophes, notamment Port-de-Bouc, Fos-sur-Mer, hein, qui sont d'importants ports pétroliers, également sur l'aéroport de Marseille-Provence à Marignane. Hein, leurs compétences sont assez diversifiées. Hein, et puis, il faut quand même reconnaître que c'est un corps d'élite assez remarquable qui est parfois envoyé à l'étranger pour intervenir dans des missions justement de gestion des calamités publiques, contribuant au passage au rayonnement de la cité phocéenne. Alors revenons justement à la lutte contre l'incendie, hein, puisque nous avons un sapeur-pompier volontaire avec nous, qui peut nous parler de son expérience. Alors, monsieur Mangiavillano, selon vous, comment les pompiers peuvent-ils limiter justement l'étendue des dégâts d'un incendie de forêt ? Quels sont les moyens de lutte qu'ils mettent en œuvre ?
Bon, avant de répondre tout à fait à la question, je vais encore une fois un peu être décalé, mais il faut bien prendre conscience que la lutte contre un phénomène, un feu qui s'est déjà formé, donc on va parler par exemple dans une pinède sur des arbres d'une vingtaine de mètres de hauteur, la chaleur dégagée est telle que la lutte est très 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 difficile. Donc l'action qui est menée au quotidien est une action qui vise à contenir au maximum la propagation. Mais l'attaque de face est très rarement possible, liée en fait à la chaleur, au rayonnement de chaleur par le phénomène. Donc il y a toute une série de mesures qui vont viser à contenir la taille du feu. La première, c'est d'arriver le plus vite possible sur le sinistre. Et donc depuis une vingtaine d'années, là encore, il y a une stratégie qui est dite l'attaque initiale massive, qui vise à mettre en place toute une série de mesures, notamment de répartir des moyens de lutte en prévention au cœur des massifs forestiers, en périphérie des villes et à proximité de nœuds de communication, pour arriver le plus vite possible sur le lieu de l'incendie. Donc pour éviter de se retrouver dans une situation où l'on ne puisse plus attaquer le phénomène, le feu, dans des conditions optimales. Voilà. Donc les stratégies en elles-mêmes de lutte, donc, sont basées sur la coordination des moyens aériens, nombreux, et les moyens évidemment terrestres, voilà, qui arrivent souvent en quantité et très rapidement. Et donc là, les actions sont essentiellement ce qu'on appelle du jalonnement, c'est-à-dire essayer d'attaquer le phénomène par les côtés, les flancs si vous voulez, et de restreindre le plus rapidement possible l'étendue, la largeur du phénomène. Et d'essayer que chaque équipe de part et d'autre du feu se rejoigne, et on peut arriver à ce moment-là à dire que le phénomène est contenu.
Alors, vous avez parlé des moyens aériens et des moyens au sol. Comment se répartit justement entre les deux la gestion du sinistre ?
Alors en fait, il y a des officiers qui ont des officiers de qu'on appelle ça des officiers aéros qui ont la fonction en fait de faire la coordination et la communication entre le sol et les aéronefs. Voilà. Donc il y a des réglementations, des stratégies, les méthodes employées sont bien rodées, les exercices sont très très souvent utilisés pour optimiser en fait la coordination entre le sol et l'air. Mais ça reste relativement dangereux. Pour les pilotes, on a beaucoup d'exemples de crash, malheureusement, puisque le phénomène, lorsqu'il a pris une ampleur importante, il y a des phénomènes de turbulence qui sont très importantes. Donc turbulences qui sont déjà liées au relief, par exemple Corse qui est déjà très tourmentée, mais en plus le feu dans un relief tourmenté augmente encore les phénomènes aérologiques très dangereux. Et puis les aéronefs ont une quantité d'eau très importante ou de produits très importantes dans les réservoirs, et lorsque cette eau touche le sol, la pression exercée est monumentale. Donc peut engendrer des blessés, voire des décès, c'est déjà arrivé, au sol. Donc il y a des procédures de coordination entre le sol et l'air qu'il faut absolument respecter.
Pour éviter que les équipes au sol se trouvent...
Exactement, exactement. Ouais. Mais globalement, on peut considérer que les aéronefs sont le bras armé en fait de la lutte. Sans les moyens aériens, l'action de lutte serait probablement, dans la majorité du cas, dérisoire. Ça, il faut bien le prendre en considération. Au mieux, on serait à même de protéger les habitations, mais jamais, jamais de pouvoir attaquer un phénomène dont je vous ai dit tout à l'heure que la chaleur pouvait dégager l'équivalent d'une centrale nucléaire. Voilà, c'est à peu près ces ordres de grandeur.
Alors, en ce qui vous concerne, vous êtes plutôt au sol, j'imagine.
Alors oui, donc moi, je suis pompier volontaire depuis une dizaine d'années dans les Bouches-du-Rhône. Je fais également un doctorat de géographie que je termine actuellement au laboratoire UMR Espace du CNRS. Et donc j'essaye d'articuler aux deux mes compétences, on va dire, opérationnelles, pratiques, un sens pratique et un sens analytique, conceptuel. Essayer de faire un va-et-vient enrichissant pour l'un et pour l'autre.
Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre expérience justement de sapeurs-pompiers volontaires. Un peu, si vous avez un exemple d'un sinistre auquel vous avez été confronté.
Ben, par exemple, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la coordination des moyens aériens et des moyens terrestres, fait que dans certaines circonstances, pardon, on est très heureux de voir arriver des avions.
Ouais.
Voilà. Donc, à de multiples reprises, les avions peuvent être amenés à larguer de l'eau directement sur des engins pour leur permettre de ne pas brûler, tout simplement. Voilà. Donc, pour employer une image, ça serait un peu des anges gardiens, pardon. Voilà, des anges gardiens des moyens terrestres. Voilà.
Et au sol, comment se déroule la lutte, j'allais dire, concrètement parlant?
Alors, concrètement, en fait, les camions en fait, qui sont employés sont de plus en plus performants et de plus en plus équipés. Donc, chaque véhicule est équipé en général de 4 individus. Et les colonnes, les groupes sont formés par 4 camions. Donc l'action, en fait, l'action de lutte ne se fait jamais de manière isolée. On est toujours coordonné par groupe de plusieurs engins. Alors il y a des raisons de sécurité à ça, évidemment. Et c'est surtout en termes d'efficacité pour traiter un maximum de zones de manière définitive. Voilà. Et puis donc il y a différents types de camions dont les fonctions sont variées. Mais globalement, ce principe, enfin, de quoi, la lutte terrestre demande une organisation très très importante hein, qu'il convient de répéter régulièrement avant la saison. Et donc en ce moment il y a des exercices en réel justement qui visent à reprendre à se roder encore juste avant la saison. Pour arriver au départ des incendies avec en étant entre guillemets chaud, comme on pourrait le dire. Voilà.
Vous-même êtes en plein exercice en ce moment?
Alors, malheureusement non, je suis en pleine rédaction de thèse, donc il y a quelquefois des priorités à faire et voilà. Pour l'instant, ma priorité est de terminer dans de bonnes conditions mon doctorat de géographie à l'Université d'Avignon.
Très bien. Alors, on parle beaucoup de lutte contre l'incendie. Mais est-ce que quelque part le feu ne pourrait-il pas avoir une utilité pour la diversité naturelle ou le renouvellement de cette diversité?
Alors oui, en fait, dans l'inconscient des gens, on a souvent l'image d'un feu comme quelque chose de destructeur. Alors évidemment, le feu d'intenter détruit la forêt que l'on voit, la forêt que l'on aime, la forêt qu'on utilise pour se promener. Etc. Mais en réalité, d'un point de vue écologique, le feu dans les écosystèmes méditerranéens est absolument fondamental pour la pérennité, de la durabilité, si vous voulez, des paysages et des milieux forestiers. Alors, ce qui pose problème, c'est pas tant le feu en lui-même, mais ça va être la répétitivité du feu à un même endroit. Voilà. Alors, dans ces conditions, oui, on peut arriver à aboutir à des paysages un petit peu désertiques comme on connaît autour de Marseille, où les sols, en fait, au bout d'un moment, s'échappent parce qu'ils ne sont plus retenus par des systèmes racinaires et on arrive à des roches à nu. Et donc, dans ces conditions, la végétation peut très, très difficilement reprendre ses droits. Mais globalement, il faut bien garder en conscience que le paysage méditerranéen des maquis et des garrigues que l'on connaît et qui fait par exemple l'identité marseillaise des calanques ou des périphéries, de la périphérie marseillaise, est totalement lié aux incendies. Par exemple, les tableaux de Cézanne, si on les reprend, sont très très différents, ces paysages-là sont très très différents de ceux que l'on connaît aujourd'hui. Donc, cet attrait, cette attirance, l'importance que l'on donne au paysage est tout à fait relative. Voilà. Mais le feu, de toute façon, d'un point de vue écologique, est tout à fait bénéfique. Et ce qu'il faut éviter, il faut bien comprendre, c'est que c'est la répétitivité du phénomène qui va poser problème.
Parce qu'il arrive toujours à un stade, donc, où...
Il arrive à un stade, nécessairement, une répétition, il y a un renouvellement, voilà. Selon les endroits et selon les espèces, on estime à peu près 10 ans la durée nécessaire pour un cycle de régénération complet. Voilà. Donc si tous les 2-3 ans, la végétation qui est en pleine croissance brûle, eh bien, il va arriver un moment où il n'y aura plus le sol suffisant pour qu'un nouveau cycle se déclenche. Donc là, on aura des paysages un peu en rocher, on pourrait dire.
Mais pour préserver ça, y a-t-il des espèces qu'on pourrait replanter qui sont plus résistantes que d'autres à ces incendies et qui permettraient de stabiliser le sol et permettre à la végétation de repousser tranquillement et de brûler sans...
Alors, la question que vous posez est très bonne, parce qu'en fait, c'est cette question-là a motivé une action de replantation, on va dire, qui a duré à peu près une dizaine d'années dans beaucoup d'espaces méditerranéens. Il se trouve malheureusement que la plupart des arbres plantés sont morts, parce qu'on ne peut pas se substituer à la nature. Et donc les opérations de replantage sont essentiellement à but communicatif pour faire prendre conscience aux populations l'intérêt de la forêt et de l'écosystème méditerranéen. Voilà. Il y a de nombreux travaux qui ont abordé la question du choix des espèces ou de la robustesse de certaines espèces par rapport à d'autres aux incendies. Alors, les travaux sont très intéressants, mais il faut garder en tête que lorsqu'un vrai feu se développe, que l'énergie dégagée est approximativement équivalente à celle d'une centrale nucléaire, les nuances locales de nature de la végétation n'influent pas énormément sur le comportement de l'incendie. Ce qui va surtout jouer, c'est la quantité qui est disponible et la façon dont la végétation est répartie, plus ou moins homogène ou plus ou moins hétérogène. Voilà. Donc, d'un point de vue biologique, ma réponse est oui. Il y a des espèces qui sont plus fragiles face au feu et d'autres qui sont plus robustes. Mais d'un point de vue pratique, on va dire, avec du bon sens, dans les faits, en tout cas, les nuances sont assez négligeables, quoi. Voilà.
Très bien.
Je vous remercie de votre intervention. On peut peut-être finir par un rappel des choses à faire pour le public s'ils sont pris au milieu d'un incendie. Quels sont les moyens qu'ils ont d'éviter d'être pris dans l'incendie et de plus pouvoir en sortir et de finir rôti comme un poulet?
Non, en fait, donc on parle en souriant d'un sujet important, hein, grave. Donc, ma réponse est, ça dépend si vous êtes déjà dans une habitation, si vous avez la chance d'habiter en plein cœur d'une forêt magnifique, ou si vous êtes un promeneur qui se retrouve un peu face à un incendie. Donc, dans le premier cas, si vous êtes dans une maison, faut toujours y rester. Ne jamais sortir catastrophé avec énormément de stress. C'est dans des situations stressantes que les accidents arrivent. Globalement, une maison résistera beaucoup plus longtemps et permettra aux moyens de secours d'arriver rapidement. Si vous êtes promeneur, eh bien, il faut essayer de sortir le plus vite possible de la zone touchée par l'incendie. Mais là aussi, sans se précipiter, c'est toujours dans ces conditions que les accidents arrivent. Et puis, essayer de se faire localiser, soit en téléphonant. Mais globalement, normalement, on n'est pas censé se trouver en plein cœur des massifs forestiers en plein été. C'est plutôt déconseillé. C'est d'ailleurs, si la réglementation existe, c'est d'ailleurs dans cet objectif.
Les accès sont bloqués d'ailleurs le plus
souvent.
Les
accès sont bloqués l'été. C'est pour éviter d'avoir des gens au milieu des forêts alors qu'un sinistre s'est déclenché et de pouvoir mettre la pression sur le phénomène et pas sur la sauvegarde des personnes. Voilà.
Très bien. Bien, mais sur ce message de prévention, hein, je pense que nous avons fait le tour de la question. Donc, merci beaucoup pour.
Merci à vous.
Pour votre intervention hein, et sur le sujet. Merci Nicolas aussi pour la discussion que nous avons menée justement sur ce sujet assez sensible. Donc, il ne me reste plus qu'à souhaiter de bonnes vacances à notre public, de bien profiter des plages et surtout d'éviter les forêts. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée en septembre ou octobre pour un nouveau cycle d'émissions. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.